Auditeurs de Radio Albigès, bonjour. C'est le groupe Amnesty International d'Albi qui vous présente son émission mensuelle « Les chroniques amnestiennes », émission sur les droits humains dans le monde. Aujourd'hui, Pascal et Jean-Michel animeront l'émission.
Bonjour.
Bonjour. Nous commencerons notre émission en vous présentant le bilan de l'opération 10 jours pour signer, l'opération annuelle internationale organisée par Amnesty International du 2 au 12 décembre. Comme vous le savez, durant cette période, 10 cas de personnes en danger sont mis en avant. Nous ferons le point sur les opérations de signature des pétitions papier que nous avons organisées dans les médiathèques d'Albi et Carmaux. L'opération continue en ligne pour quelques semaines encore. Les manifestations contre le pouvoir iranien continuent. Les autorités iraniennes usent des méthodes de répression les plus cruelles pour étouffer le soulèvement. Plusieurs personnes risquent la mort dans les jours à venir. N'abandonnons pas la population iranienne. En France, des préfectures ont tenté d'expulser deux personnes vers la Syrie en octobre dernier. Cette tentative était illégale et scandaleuse. Faut-il le rappeler, la Syrie n'est pas un pays sûr. Après une pause musicale, nous vous communiquerons deux bonnes nouvelles, l'une en Turquie et l'autre en Russie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution demandant enfin la fin des violences et la libération immédiate de toutes les personnes détenues arbitrairement au Myanmar. C'est un pas modeste et Amnesty International continue d'appeler le Conseil de sécurité de l'ONU à saisir la Cour pénale internationale. Nous terminerons notre émission en revenant sur les revenus rapportés par la Coupe du Monde au Qatar et sur les demandes d'indemnisation des travailleurs migrants toujours attendues. Voilà, bien donc nous allons commencer par un petit point rapide sur l'opération 10 jours pour signer qui s'est déroulée, comme je l'ai dit en introduction, du 2 au 12 décembre dans le monde entier et en particulier pour nous dans les médiathèques d'Albi et Carmaux. Sachant que les signatures en ligne étaient toujours possibles à tout moment, partout. Voilà, donc, point de vue bilan, c'est un bilan un peu mitigé, surtout sur Albi.
Oui, mitigé, effectivement, voilà, avec moins de fréquentation.
Voilà, tout à fait. Alors, là, ce qu'on a constaté, puisque bon, il y a passé quelques heures quand même sur deux jours chacun, c'est que le flux était nettement inférieur à ce qu'on a pu connaître avant le Covid.
Voilà, donc oui, surtout sur un vendredi ou un samedi.
Vendredi, samedi, où ça vient, ouais, ça roule, quoi. Ouais. Voilà, donc d'ailleurs, j'en ai discuté avec le personnel de la médiathèque d'Albi, ils avaient le même sentiment. Mm. Bon, cela dit, on a fait 1450 signatures, c'est-à-dire une moyenne de 150 signatures par pétition, mm-hmm, d'accord. Ça veut dire qu'il y a eu environ, parce que tout le monde n'a pas tout signé pour des raisons diverses, souvent, quand il y a beaucoup de monde devant une table, parfois on peut pas aller jusqu'au bout, parce qu'il y en a quand même 10. Et on peut dire qu'on a touché 200 personnes assez facilement à la médiathèque d'Albi sur ces deux jours. Moi, le point positif que j'en tire, et un petit peu tous les ans, ce qui me rassure, c'est que quand j'aborde, à l'entrée de la médiathèque des jeunes, qui n'ont pas forcément 16 ans, donc qui n'ont pas le droit de signer, mais qui sont à l'écoute, parce qu'il est bon de leur expliquer ce qu'est les droits humains, et on sent qu'il y a quand même affaire, ils sont très, très à l'écoute, et ils réagissent positivement. C'est ton avis, peut-être Pascal aussi?
Oui, je me souviens d'échanges vraiment intéressants avec des nombreuses personnes, mais entre autres des jeunes qui, d'ailleurs, ne connaissent pas forcément Amnesty International, mais se sentent concernés.
Voilà. Les adultes, en général, connaissent, parce que ils entendent parler de rapports, etc., une intervention d'Amnesty ici ou là. Ouais. Bon, en général, 90% répondent « oui, je connais », alors plus ou moins, mais ils connaissent. Les jeunes, ils débarquent un petit peu, ce qui prouve qu'il y a du boulot à faire.
C'est ça.
Mais ils sont très à l'écoute, 14-15 ans, et quand on leur présente rapidement les cas, qu'on prend son temps, et on ne perd pas son temps dans ce cas-là, on n'est pas là pour faire signer. Hein. Bon, eh bien, on s'aperçoit que ça les intéresse, ça les accroche, ces histoires de droits violés, à gauche, à droite, et différents, dans différents pays, ils s'intéressent à ça. Voilà, donc de ce côté-là, ça reste très positif. Bon, dommage, je peux penser que, finalement, là, fréquentation va revenir à médiathèque comme dans les cinémas, parce que moi je constate que dans les cinémas aussi la fréquentation a baissé, mais bon, c'est un autre sujet. Alors à Carmaux par contre, on a fait le même nombre que d'habitude. Bon, Carmaux, la médiathèque, c'est pas une grande affluence, hein, c'est Carmaux, tout le monde va pas à la médiathèque, mais on a fait nos pratiquement 600 signatures habituelles, c'est-à-dire, pareil, on va dire 70 personnes, en gros, qui ont été touchées, qui ont signé plus ou moins les 10 pétitions qui étaient là.
Voilà. Du coup, c'est étonnant qu'un Carmo ne s'est pas changé.
Il est un petit peu froid aussi, le week-end en question, le vendredi,
oui,
samedi,
à Albi.
Mais à Carmo aussi, alors qu'il n'y a pas de raison. Voilà, donc, bon... De toute façon, il y a également pas mal de gens qui étaient plus ou moins pressés, qui nous ont dit, on peut le penser pour certains sincèrement, qu'ils allaient signer en ligne, puisque dans ce cas-là, on donne un petit document qui permet de dire, allez, signer en ligne, les dicas sont là, et ça va très vite, effectivement. Ouais. Donc ça, on peut pas l'évaluer. Mais bon, on n'a pas encore de chiffres nationaux ou internationaux, on les donnera la prochaine fois. Mais bon, disons que c'est une grosse opération de communication. Pour nous, plus on informe de gens, surtout sur ce qui se passe dans le monde, plus on est content de notre opération. Voilà, donc on va rester là pour l'instant, on vous donnera d'autres informations dès qu'on en aura. Voilà, alors on va encore une fois revenir en Iran. On en a parlé la dernière fois, on en a parlé l'avant-dernière fois, j'ai peur qu'on en parle encore un moment, mais on est obligé d'en parler encore pour rappeler qu'il y a risque imminent d'exécution pour des personnes en lien avec le soulèvement actuel, n'est-ce pas Pascal ?
Oui, donc les autorités iraniennes usent de méthodes de répression de plus en plus cruelles pour étouffer les soulèvements de la population, et parmi ces méthodes, la peine de mort. Donc 4 manifestants ont déjà été exécutés. Plusieurs personnes risquent le même sort dans les jours à venir. J'avais entendu une émission sur France Culture, je crois, et il y avait des maires, etc., qui parlaient, qui avaient manifesté, d'ailleurs.
Oui, les manifestations ne baissent pas. Le régime fait en sorte qu'on en parle peu, et en écrasant et en cassant l'information, mais n'empêche qu'on est toujours sur une situation de crise très forte.
Voilà, donc le message d'Amnesty, portons leur voix, ne les abandonnons pas.
Oui, alors ils s'appelaient Mohsen Chekari, Majid Reza Ranavard, Mohamed Mahdi Karami et Seyed Mohamed Husseini. Ils avaient entre 22 et 39 ans. Comme des milliers d'Iraniennes et d'Iraniens, ils participaient aux manifestations en lien avec le soulèvement populaire en cours en Iran depuis plus de 4 mois. Ils ont été exécutés après des simulacres de procès, c'est l'horreur absolue.
Oui, les autorités iraniennes se servent de la peine de mort donc comme outil de répression politique dans le but d'instiller la peur parmi la population et d'intimider les manifestants qui osent encore descendre dans la rue pour demander plus de liberté et dans le but de mettre fin donc aux soulèvements populaires. Nous vous appelons à vous mobiliser pour les personnes qui risquent dans les jours à venir de subir le même sort.
Voilà, alors il faut continuer à agir, on a commencé, on vous a donné d'ailleurs pas mal d'indications depuis 2-3 mois avec des pétitions qui étaient en cours ou des actions à réaliser, ben on peut continuer. Donc face à ce niveau d'atrocité qui vient d'être décrit par Pascal, vous êtes nombreux, chers auditeurs, et nombreuses à nous demander comment agir. Alors la première chose à faire, en parler, ne pas rester silencieux, c'est déjà une façon d'agir. Le niveau de répression est tel en Iran que nous nous devons de porter la voix de la population iranienne. Donc, laissons pas dans l'oubli ce qui se passe en Iran. Relayer, interpeller, partager pour ne pas que sous nos yeux les exécutions se poursuivent. Et concrètement, on a 2 actions que l'on peut faire, une par Twitter et une par courrier, mais je te laisse la première.
Oui, donc la première, donc interpeller les autorités et la communauté internationale sur Twitter. Nous vous proposons 2 modèles de tweets pour demander aux autorités iraniennes de cesser toute exécution et d'annuler toute condamnation à mort. La mobilisation internationale est plus que jamais nécessaire. Donc, il y a un tweet hashtag Stand White Iranians. Mm-hmm. Voilà.
Voilà, vous pouvez aller d'ailleurs sur le site amnesty.fr, vous allez retrouver cette action. Avec des propositions de phrases clés, enfin simples, à envoyer à travers ce tag, et même un autre. Il y en a en fait 2, mais on vous a proposé celui qui nous paraissait le plus pertinent.
Oui, c'est ça.
Voilà. Alors il y a l'autre opération, action plus classique, c'est envoyer un courrier aux autorités iraniennes. Alors, comme il semblerait que l'ambassade d'Iran en France ait bloqué sa boîte mail, nous vous invitons donc à leur écrire par voie postale. Il y a encore la voie postale. Et moi, je trouve que c'est pas plus mal parce que on est bien encombré quand on reçoit ça dans une ambassade. Alors, en recevant des centaines de courriers, les autorités iraniennes devront se rendre compte, si vous voulez, donc de la problématique et de la communication qui est faite autour des peines de mort en Iran. Alors, chaque envoi de courrier vous permettra, chers auditeurs, de manifester votre soutien à la population iranienne et surtout de demander l'arrêt des exécutions. Alors, je ne vais pas vous lire la pétition, elle est complète, elle est bien faite et elle est adressée aux responsables du pouvoir judiciaire. Voilà. Donc, ambassade d'Iran auprès de l'Union européenne. Voilà, faut bien voir que c'est assez compliqué parce qu'ils n'ont pas partout un point de chute. Et la copie est à envoyer, une copie systématique à l'ambassade de la République islamique d'Iran à Paris. Voilà. Donc faites-le, c'est facile. Vous avez un texte sur le site, vous faites un copier-coller, vous le personnalisez un tout petit peu, vous mettez vos coordonnées et vous envoyez ça par voie postale aux adresses qui sont là. Donc deux lettres, une aux responsables du pouvoir judiciaire et l'autre à l'ambassade. Voilà, merci beaucoup pour eux. Bien, alors on va venir en France où on a constaté en octobre que des préfectures avaient tenté d'expulser deux personnes vers la Syrie. Bon, alors que les relations diplomatiques entre la France et la Syrie sont officiellement rompues, il faut s'en rappeler, depuis mars 2012, et que la guerre et une répression implacable continuent de ravager le pays, deux préfectures françaises ont tenté d'expulser deux personnes vers la Syrie en octobre 2022, ce qui est illégal et scandaleux.
En effet, à la suite de l'alerte faite donc d'Amnesty avec la CIMAD, le gouvernement français s'engage de nouveau à ne pas expulser de personnes en Syrie. Il doit aller plus loin en ne notifiant pas de décision d'éloignement et en délivrant un titre de séjour aux personnes qui ne peuvent pas être expulsées.
Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait ?
Alors en octobre 2022, les deux personnes se présentant comme des ressortissants syriens ont été enfermées dans les centres de rétention administratifs, les CRA, de Toulouse et du Ménil-Amelot par la préfecture de Haute-Garonne et la préfecture de police de Paris afin d'être expulsées vers la Syrie. Ce faisant, les autorités françaises violaient en toute connaissance de cause les règles internationales et européennes qui interdisent de façon absolue le renvoi d'une personne vers un pays où elle risque la torture et les mauvais traitements.
Tout à fait. Alors, selon les éléments présents dans les deux dossiers d'expulsion consultés par la CIMAD et Amnesty International, des échanges de courriels ont alors eu lieu entre des préfectures françaises et les autorités consulaires syriennes. L'ambassade de Syrie en France a été contactée par les deux préfectures pour à la fois signaler que les deux personnes étaient enfermées en centre de rétention administrative et qu'elles faisaient l'objet d'une mesure d'éloignement, mais aussi pour solliciter une reconnaissance consulaire dans le but de délivrer un laissez-passer et permettre l'éloignement vers la Syrie. Dans les deux cas, l'ambassade de Syrie a répondu qu'en l'absence de documents d'identité valides, aucun laissez-passer ne pouvait être délivré. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. C'est donc le refus de l'ambassade syrienne qui a permis d'empêcher l'expulsion sollicitée par des autorités françaises. On rêve.
Et donc, dans le cas du ressortissant syrien enfermé au CRA du Ménil-Amelot, la prise de contact a été constatée par deux juges qui ont considéré que ces démarches justifiaient de le maintenir enfermé pour procéder à son expulsion.
Voilà. Alors, non seulement deux préfectures ont prévenu les autorités syriennes de la présence en CRA de ces personnes et de leurs identités, sans précaution quant au risque qu'elles pourraient encourir face à ces mêmes autorités en cas de retour dans leur pays, mais des juges n'y ont vu aucun problème, alors même que des exemples récents de meurtres, disparitions et tortures de réfugiés retournés récemment en Syrie ont été documentés et que la guerre et la répression continuent à ravager le pays. Si vous allez sur le site d'Amnesty, vous aurez plein d'exemples où des gens qui sont rentrés en Syrie ont disparu complètement. Voilà. Alors, faut-il le rappeler, n'est-ce pas ? La Syrie n'est pas un pays sûr.
Oui, dans le rapport intitulé « You're going to your death »,« Tu vas au-devant de la mort », publié le 7 décembre 2021, Amnesty International recensait la longue liste des violations des droits humains commises par des agents des services de renseignement syriens contre 66 personnes revenues au pays, dont 13 enfants. Ce rapport montrait que les personnes réfugiées retournant en Syrie, après avoir fui, risquent d'être persécutées, non en raison de leur profil particulier, mais simplement parce qu'elles ont cherché refuge à l'étranger.
Oui, on sait quel terrible sort attend les réfugiés syriens qui rentrent dans leur pays. Alors, les deux personnes réfugiées menacées d'expulsion ont finalement été libérées par le juge de la liberté et de la détention, mais risquent toujours d'être renvoyées vers la Syrie, leur obligation de quitter le territoire français, le fameux OQTF, étant toujours valide. La France doit clamer haut et fort son attachement à la Convention de Genève. La France ne doit pas placer en rétention ni tenter d'éloigner toute personne vers un pays dans lequel elle risquerait d'être exposée à de la torture, des traitements inhumains ou dégradants et où sa vie ou sa liberté serait menacée.
C'est pourquoi Amnesty demande au gouvernement de condamner ces pratiques et que ces deux OQTF soient abrogés. Il faut rappeler clairement et publiquement les obligations internationales de la France, dont tu parlais, et de mettre en place les mesures nécessaires pour que les préfectures appliquent ces obligations.
Alors rappelons que ces tentatives scandaleuses et illégales en droit international interviennent 2 ans après de funestes expulsions de réfugiés tchétchènes vers la Russie. Ce qui évidemment ne s'est pas traduit par de bons résultats.
We'll be right back.
Chers amis auditeurs de Radio Albigès, vous êtes toujours avec le groupe Amnesty International d'Albi qui vous présente son émission Les Chroniques Amnestiennes. Donc on vient d'écouter Sunday Bloody Sunday, donc chanté par U2 évidemment. Un petit rappel quand même, cette chanson fait relation avec le massacre de manifestants pacifiques en 1972 en Irlande du Nord. Donc il était peut-être bon de le rappeler aussi.
Oui, très bien le petit rappel. Ouais.
Voilà. Ouais. Alors on va passer à deux bonnes nouvelles. En Russie peut-être, tu veux commencer?
Oui.
Pascal?
Alors, en Russie, donc il s'agit de Lilia Tsvetkova.
C'est dur les noms russes par moment. Hein.
qui est définitivement acquittée. Donc c'est une jeune artiste russe qui était accusée de diffusion de matériel pornographique pour avoir publié des dessins représentant des corps de femmes et des vulves. Le crime est passible de 6 ans de prison en Russie. Le 22 novembre dernier, nous avons appris que Lulia a été définitivement acquittée. Alors, l'acquittement de Lulia est une victoire importante qui n'aurait pas été possible sans votre mobilisation. Rien qu'en France, 6 000 personnes se sont mobilisées pour elle. Que dire d'autre ? Je veux vous remercier pour tout le soutien apporté, pour toutes les lettres écrites pour nous protéger, ma fille et moi, déclarait sa mère.
Voilà, très bien, ben on est bien content parce que quand on médite, on est content d'avoir des retours comme ça. Alors en Turquie, c'est une affaire que vous connaissez, chers auditeurs, depuis un moment, c'est-à-dire depuis le coup d'État qui a eu lieu, la tentative, pardon, de coup d'État qui a eu lieu en Turquie en 2016, je crois, oui, contre Erdogan, enfin. Voilà. Donc, à l'époque, un certain nombre de personnes, de responsables d'organisations se sont retrouvés inculpés en prison, etc. Alors, je vous rappelle que Taner Kilic, qui était le président honoraire d'Amnesty Turquie, et Idil Eser, qui était la directrice d'Amnesty Turquie, s'étaient retrouvés en prison, ont subi des procès, des appels. Voilà, bon. Et enfin, ça y est, je dirais que par une décision de la plus haute cour d'appel du pays, il y a une décision donc de relax de ces deux personnes, et en fait au bénéfice de 4 défenseurs des droits humains, donc d'autres personnes avec eux également. Alors c'est un grand soulagement qui démontre toutefois le caractère politique et sans fondement qui a motivé les poursuites. On se rappelle que dans le dossier il n'y avait rien. Enfin bon.
Oui, bah comme à chaque fois, comme ça a permis un grand nettoyage.
Comme Erdogan voulait faire un grand nettoyage, tout ce qui ne lui plaisait pas, il fallait s'en débarrasser. Donc, Taner Kilic, c'était un avocat spécialiste des droits des réfugiés. Il avait été arrêté en juillet 2016 et 2017, mais enfin bon. Et il a été détenu en prison quand même pendant plus de 14 mois avant de sortir de là. Donc, il n'y avait pas de preuves, je l'ai dit. Et en juillet 2020 encore, il avait été déclaré coupable d'appartenance à une organisation terroriste, moi, bon. Et condamné encore, rebelote, à 6 ans et 3 mois de prison. Et Idil Eser, Dalkran et Kursun, les 3 autres personnes, en avaient pris pour 25 mois pour assistance à une organisation terroriste. Et ont passé 3 mois derrière les barreaux en 2017. Alors, malgré tout, le tribunal a considéré que le dossier de Taner nécessitait un complément d'enquête. Et donc, on va rester vigilant. Donc, ils ont été relaxés, mais il y a toujours l'épée de Damoclès. Ça, c'est le régime d'Erdogan. Alors, on va revenir sur une affaire dont on vous entretient maintenant depuis également 3 ou 4 mois au moins. Et on n'est pas les seuls à vous en parler. Israël, territoire palestinien occupé. On revient encore sur Salah Hamouri, et Salah Hamouri a été expulsé d'Israël, de la Palestine, je dirais plutôt vers la France, et ça c'est une violation de droits humains. Les autorités israéliennes ont expulsé donc ce défenseur des droits humains franco-palestinien le 18 décembre 2022, et l'avocat est arrivé en France. Par son expulsion d'Israël, Salah Hamouri, paye le prix fort pour son travail d'avocat en faveur des Palestiniens et Palestiniennes. Il a été détenu, je vous le rappelle, près de 10 mois en détention sans inculpation. On l'a rappelé X fois, c'était renouvelé tous les 3 mois, on l'a dit ici. Parce qu'il travaille au quotidien pour la défense des droits des Palestiniens et Palestiniennes. Alors cette expulsion est une manœuvre visant à entraver le travail de Salah Hamouri en faveur des droits humains, mais aussi l'expression de l'objectif politique à long terme des autorités israéliennes qui est de diminuer l'importance de la population palestinienne à Jérusalem-Est. Ça, faut pas l'oublier.
Et en effet, Amnesty rappelle que l'expulsion des territoires palestiniens occupés constitue une grave violation du droit international et de la 4e Convention de Genève et est un potentiel de crime de guerre. Elle pourrait également être constitutive d'un crime contre l'humanité. Ces crimes relèvent tous de la compétence de la Cour pénale internationale. L'expulsion de Salah Hamouri se fonde sur un amendement à la loi israélienne qui autorise le ministre israélien de l'Intérieur à expulser les résidents permanents, statut juridique de la majorité des habitants et habitantes de Jérusalem, si leur manquement à l'allégeance à l'État d'Israël est reconnu. Cette mesure entre en contradiction avec le droit international. En effet, l'allégeance à la puissance occupante ne peut être exigée de la part de la population occupée.
Voilà, c'est un petit peu, c'est ubu, quoi. Voilà. Alors depuis 20 ans, Salah Hamouri a subi bon nombre d'actes inhumains dont se servent les autorités israéliennes pour appliquer et maintenir le système d'apartheid. On l'a bien dénoncé à Amnesty International, je vous rappelle le rapport sur l'apartheid dans ce pays, à l'encontre de la population palestinienne. Détention administrative renouvelée à plusieurs reprises, harcèlement, séparation familiale, surveillance et révocation de son statut de résident.
Oui. C'est pourquoi Amnesty rappelle que les autorités israéliennes doivent permettre le retour de Salah Hamouri et de ses proches à Jérusalem-Est, rétablir son statut de résident à Jérusalem, lui permettre de poursuivre son travail en faveur des droits humains, sans craindre des représailles et la possibilité d'y mener une vie familiale normale.
Les autorités françaises doivent continuer à demander le respect des droits de Salah Hamouri et de tous les Palestiniens et Palestiniennes. La voix de la France compte. Nous appelons Emmanuel Macron à lutter contre l'impunité dans laquelle agissent les autorités israéliennes. Et j'ajouterai que le nouveau gouvernement en Israël a montré ces derniers temps que les choses allaient être de plus en plus difficiles.
On ne va pas vers du mieux là.
Vers du mieux. Alors un petit retour vers le Myanmar, il y a quelques mois qu'on n'en a pas parlé, mais bien entendu la situation est toujours la même, n'est-ce pas, Pascal ?
Oui, réagissant à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution demandant enfin la fin des violences et la libération immédiate de toutes les personnes détenues arbitrairement, la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, a déclaré: avec l'adoption de cette résolution, le Conseil de sécurité a enfin fait un pas modeste, mais néanmoins important, vers la reconnaissance de la situation extrêmement grave au Myanmar. Le Conseil doit maintenant poursuivre sur cette voie en organisant des réunions régulières et ouvertes et en faisant appliquer ses exigences par de nouvelles résolutions en vertu du chapitre 7.
La résolution ne prévoit pas d'autres mesures pourtant nécessaires de toute urgence pour faire face à la situation dans le pays, notamment un embargo total sur les armes, des sanctions ciblées contre des dirigeants militaires responsables de graves atteintes aux droits humains et une saisine de la Cour pénale internationale. Agnès Callamard a déclaré: les autorités militaires doivent se conformer à la résolution, mettre fin immédiatement aux violences et libérer les personnes détenues arbitrairement. Le Conseil doit en outre imposer un embargo total sur les armes, notamment sur le carburant destiné à l'aviation, ainsi que des sanctions ciblées contre des responsables militaires. Et elle conclut: cette résolution doit constituer un message faisant savoir aux autorités militaires du Myanmar qu'elles ne peuvent pas continuer leurs graves violations des droits humains et leurs attaques contre des civils. Le Conseil les observe.
En effet, Amnesty International continue d'appeler le Conseil de sécurité de l'ONU à saisir la Cour pénale internationale, la CPI, de la situation au Myanmar dès que possible, afin de commencer à prendre des mesures face à l'impunité qui règne tant pour les atrocités commises contre les Rohingyas que pour les crimes commis depuis le coup d'État de février 2021.
Alors faisons un petit rappel au cas où on aurait oublié cela, mais près de 2 ans après le coup d'État militaire de février 2021, on compte plus de 1 400 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, 13 000 personnes détenues dans des conditions inhumaines, au moins 73 personnes dans le quartier des condamnés à mort et 7 800 000 enfants déscolarisés. D'après l'association d'aide aux prisonniers politiques de Birmanie, l'armée du Myanmar a tué plus de 2 600 personnes depuis le coup d'État. Et parmi les victimes figurent des manifestants pacifiques, des militants en faveur de la démocratie et d'autres civils. L'armée du Myanmar a ignoré de manière flagrante les appels à respecter les droits humains, y compris le consensus en 5 points adopté par l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, qu'elle s'était pourtant engagée à mettre en place en avril 2021.
Les atrocités commises depuis le coup d'État de l'année dernière s'inscrivent dans le sillon de la campagne de crimes contre l'humanité menée par l'armée du Myanmar en 2017, qui a provoqué la fuite de plus de 740 000 Rohingyas de l'État d'Arakan vers le Bangladesh, face à une violente campagne d'exécutions extrajudiciaires, d'incendies et d'agressions sexuelles. Selon les estimations, 1 million de Rohingyas sont actuellement réfugiés au Bangladesh et nombre de ces personnes ont vu leur village détruit dans l'état d'Arakan.
Voilà, donc je crois qu'il était bon de faire ce petit rappel parce que tout ça se finit par tomber dans l'oubli un petit peu, on en parle moins et on oublie que depuis au moins 2 ans, donc c'est une situation terrible. Et je crois qu'il faut continuer à être vigilant. Il faut absolument que les dirigeants actuels passent un jour devant la Cour pénale internationale. Alors notre dernier sujet, on va y revenir, le Qatar. Mais oui, l'ami Gianni Infantino, le président de la FIFA, a annoncé que la Coupe du Monde avait rapporté 1 milliard de dollars de plus que prévu. Mais il ne parle toujours pas des demandes d'indemnisation des travailleurs et travailleuses migrants.
Donc, en réaction aux déclarations faites vendredi 16 décembre par le président de la FIFA, Gianni Infantino, selon lesquelles l'organisation a dégagé des revenus records, Stéphane Cockburn, directeur du programme Justice économique et sociale d'Amnesty International, a déclaré...
Oui, alors il a déclaré, Gianni Infantino a annoncé que la FIFA avait gagné 7,5 milliards de dollars grâce à la Coupe du Monde 2022, soit plus d'un milliard de plus que prévu. Il prévoit par ailleurs que la FIFA enregistrera plus de 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur les 4 prochaines années. Pourtant, il n'a rien proposé de nouveau aux nombreuses personnes migrantes et leurs familles qui continuent d'être privées d'indemnisation pour les salaires volés et les vies perdues.
Oui, Amnesty rappelle que les travailleurs et travailleuses migrants derrière cette Coupe du Monde ont largement contribué à la richesse incroyable de la FIFA et il ne fait aucun doute qu'elle doit les indemniser pour les préjudices subis. Au lieu de continuer d'ignorer les demandes de justice de ces personnes, le fonds d'héritage que l'organisation a récemment proposé de créer doit garantir des réparations à toutes celles et ceux qui ont rendu ce tournoi possible, ainsi qu'aux familles qui ont perdu des proches dans le cadre de sa préparation.
Donc l'action continue pour l'indemnisation de ces travailleurs et de ces vies perdues. Alors avant de terminer, nous accueillons avec nous un jeune, Aubin.
Bonjour.
Tu es là avec nous.
Voilà. Bonjour à tous et bonjour aux auditeurs de Radio Albigès.
Exactement. Il est venu donc prendre contact pour voir quelles actions il pouvait mener au niveau local avec le groupe donc Albi, Albi Tarn Nord. Alors simplement, quelles sont tes motivations, Aubin?
Ben, j'ai toujours été sensible à la question des droits humains. De par mes études, j'ai étudié la géopolitique et les relations internationales. Donc j'ai très tôt connu Amnesty International de par la question ouïghour, kurde, oui. De par la question de la Palestine dont on a parlé au cours de l'émission.
Oui, les sujets ne manquent pas.
Exactement, les sujets ne manquent pas. Et j'ai toujours été plutôt passif, c'est-à-dire un lecteur d'Amnesty International. Et durant mon séjour en Amérique latine, puisque je suis parti après mes études en Amérique latine faire une année sabbatique, mon envie de m'engager auprès d'une association n'a fait qu'augmenter. Donc du coup, à la rentrée, j'ai commencé à m'engager en tant que service civique avec l'UNICEF et tout se passant à merveille, je me suis dit pourquoi pas continuer et passer des droits de l'enfant aux droits humains en général. Donc j'ai toqué à la porte d'Amnesty International qui m'ont effectivement très bien reçu.
Tu as bien fait. Eh bien, on accueille Aubin avec joie et j'espère que tout se passera bien. Mais bon, je pense que les premiers contacts sont bons et il y a du boulot.
Oui.
Voilà, il y a pas mal de boulot à faire.
Et j'ai très hâte de commencer à donner tout ce que je peux pour Amnesty International et l'antenne d'Albi.
Voilà, et la défense des droits humains. Merci. Notre émission se termine, chers auditeurs, et à travers les situations que nous venons d'évoquer, nous ne pouvons que constater que le chemin vers le respect des droits humains dans le monde est encore très long. Il faut pourtant que ces droits humains continuent à progresser. Il faut agir avec Amnesty International et d'autres associations qui œuvrent dans le même but pour faire pression partout dans le monde sur les autorités qui foulent aux pieds des droits et libertés. Alors vous pouvez intervenir sur les situations que nous venons de vous présenter et bien d'autres et signer nos pétitions en ligne sur le site amnesty.fr. Alors, je vous rappelle que les pétitions des 10 jours pour signer sont toujours en ligne. Donc si vous êtes en retard, vous prenez votre ordinateur, votre tablette, ce que vous voulez, votre smartphone et vous allez sur amnesty.fr. C'est la première page qui se présente ou presque. Voilà. Si vous souhaitez agir avec le groupe Amnesty International Albi, envoyez-nous un courriel sur notre messagerie albi@amnestyfrance.fr. Nous prendrons alors contact avec vous. Merci de nous avoir écoutés et de nous faire part de vos commentaires et suggestions à ces mêmes adresses. Et n'oubliez pas, vos signatures ont du pouvoir. Thank you.